Édition spéciale Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour une édition spéciale autour des résultats des municipales hier soir avec Michel Taube, Nicolas Vidal, Frédéric Dabi et Christian de Villeneuve. On a évoqué l'abstention. Alors vous êtes nombreux à réagir autour de l'abstention. Non, le vote blanc n'est pas pris en compte, mais ça fait partie des suggestions qui ont pu être faites hier, c'est-à-dire de le prendre en compte. Si on rend le vote obligatoire, le vote blanc devrait être...
Il est quand même pris en compte dans la mesure où depuis une dizaine d'années, on l'a dissocié du vote nul. Ouais. Mais il ne compte pas dans les suffrages.
Mais il ne compte pas dans les suffrages, absolument. La claque pour La République En Marche, c'est quand même l'un des enseignements aussi de ce scrutin. C'était attendu, mais tout de même, c'est violent.
Voilà, le premier tour avait donné quand même, avait été conforme aux enquêtes d'opinion, c'est-à-dire une très grande difficulté pour En Marche, parce que le vote aux élections municipales repose sur un triptyque, bilan, projet, incarnation, et un parti aussi nouveau en était dépourvu. Non, là, il y a des symboles particulièrement forts sur les trois grosses villes, Paris, Lyon, Marseille. Marseille 1% pour Yvon Berland qui était présent sur un seul secteur. Lyon, la fin de l'arc long. Et puis Paris, hein, nos premiers sondages, Valérie, Fab Fiducial pour Sud Radio et le JDD, donnaient Benjamin Griveaux en avril 2018 en tête face à Anne Hidalgo. Et puis ils sont allés de déconfiture en déconfiture. Une campagne horribilis. Et puis symboliquement, Agnès Pannier-Runacher battue, Marlène Schiappa battue, Agnès Buzyn qui n'est même pas conseillère de Paris. Les seuls conseillers de Paris En Marche seront des personnes qui appartenaient à l'ancien monde. Florence Berthoux, qui était élue depuis 2014, et Delphine Burkly, qui avait fait basculer le 9e de la gauche vers la droite en 2014 également.
Oui.
Oui, c'est une claque attendue, mais une nouvelle fois, moi, c'est mon idée. Je pense qu'Emmanuel Macron, il s'en fout des municipales, en fait, concrètement. Pour moi, c'est pas son but, concrètement. Il va passer très vite. Hein. Vous citiez Guillaume Tabar, notre confrère. Il est en jeune municipal. Emmanuel Macron, il a ce projet néolibéral dans lequel il fait passer la France. Et très sincèrement, les municipales, ils s'en foutent. Et puis, on sort quand même des gilets jaunes, la réforme des retraites, on sort d'une série de choses. Et on peut pas dire qu'Emmanuel Macron soit le président de la 5e République ultra enraciné dans le territoire. Donc, moi, ça m'étonne pas du tout. Et une nouvelle fois, je pense vraiment qu'ils s'en foutent complètement. Après, c'est des coups d'éclat avec, vous l'avez dit, Frédéric Dabi, Marlène Schiappa, Gabriel Attal, tous ces gens qui se sont fait sortir minablement de Paris. Mais concrètement, voilà mon idée sur la règle.
Est-ce qu'on peut s'en foutre ? Est-ce qu'on peut s'en foutre ?
Alors, à titre personnel, oui. Mais politique nationale, oui.
Christian de Villeneuve, c'est pas toujours facile quand on est à distance d'intervenir. On vous écoute.
Non, je ne crois pas du tout que le président puisse s'en foutre des municipales. Ça va le priver de liberté d'action, et en particulier, il va peut-être beaucoup réfléchir à l'idée de virer Édouard Philippe, et deux, l'éventualité, on en parlait beaucoup, d'un référendum. Après la claque qu'il a reçue, un référendum, ce sera avant tout un pour ou contre Macron. Et vu les résultats d'hier, je pense qu'il ne prendra pas de risque. Donc ça lui prive de sa liberté d'action, je le prends, et donc il ne veut pas s'en foutre. Après, comment relancer toute sa problématique, tout son problème aujourd'hui, c'est comment relancer une dynamique, la dynamique de son quinquennat sur les deux années à venir. Et là, c'est un peu la bouteille à l'encre.
Seule lueur pour Emmanuel Macron, mais alors quelle lueur, c'est la victoire d'Edouard Philippe, et qui en fait a quand même un sens politique important. Il se rend un peu plus incontournable pour succéder à lui-même cette semaine, parce que s'il débarque Edouard Philippe, qui est le seul qui a obtenu le suffrage populaire, je pense que ce sera très très difficile à défendre.
Avec 58% d'abstention, je pense, sous votre contrôle, Frédéric Dabi,
tout à fait. Même si la participation a progressé entre le premier tour et le second tour. Non, ce qui est très intéressant, on a vu par le passé des premiers ministres qui avaient une légitimité sondagière être sortis du gouvernement. Michel Rocard en 91, plus loin pour les plus de 60 ans, Jacques Chaban-Delmas sorti par Georges Pompidou. Là, Édouard Philippe a eu une légitimité électorale. Et n'oublions pas, c'était toutes nos enquêtes récentes, c'est celui qui tient l'édifice macronien en surperformant dans les catégories de droite. Dans le dernier IFOP JDD, il a 71% de satisfaits dans l'électorat LR. C'est lui qui bouche l'espace et qui empêche LR de respirer nationalement.
Oui.
Donc, aurait vraiment des conséquences, mais c'est le choix du président.
Ce qui pose beaucoup de problèmes à une bonne partie de l'entourage de Macron, parce qu'il y a quand même des fortes pressions sur la partie gauche ou pseudo-gauche de la Macronie, notamment dans l'entourage proche du chef de l'État pour remplacer Édouard Philippe. Et là, je pense qu'il ne pourra pas le remplacer.
0826 300 300 si vous voulez réagir. On a Olivier qui nous appelle de Bordeaux. Bordeaux où ben, justement ça a été un coup de tonnerre. Bonjour Olivier.
Bonjour, bonjour Isabelle, bonjour
Valérie.
Merci de m'accueillir. Valérie, vous voyez ça, c'est l'émotion.
Bon, alors vous êtes content ou pas de l'élection de ben, votre...
Moi, je suis très content. Je trouve que Bordeaux est très révélateur de ce qui se passe en France. Alors, j'ai entendu ce que disaient tous vos invités. Ouais. Moi, la première vague, elle n'est pas verte. Hein, c'est celle de l'abstention, je crois, d'une part.
Ouais, bien sûr.
Et c'est la vague du dégagisme. Je crois qu'on est encore là-dedans et que ça, il faut pas fermer les yeux là-dessus. Ensuite, alors Bordeaux, c'est intéressant parce que, pour tout vous dire, moi, j'ai voté Poutou et je suis très content que Urmic soit passé. Voilà. Pourquoi ? Parce que d'abord, on dégage la droite après 73 ans de chabanisme et de jupéisme. Et d'une bourgeoisie bordelaise quand même très...
Pardon de vous interrompre, Juppé, il a fait beaucoup en matière d'écologie, non ? Pour
non,
Bordeaux.
En matière d'écologie, vous plaisantez ou quoi ?
Juppé, les quais piétons, le tramway...
Non mais ça, c'est pas de l'écologie, Juppé, il a pris nos impôts locaux pour faire de Bordeaux une ville très attractive. Après, il a dégagé les pauvres de Bordeaux. Il y a une paupérisation à Bordeaux qui n'existait pas avant. Socialement, c'était quand même limite. Vous avez vu l'importance des gilets jaunes à Bordeaux. Vous croyez que c'est une réussite pour le bilan de Juppé ? Je crois pas, non. Je crois que justement, on s'y est pas trompé. Alors après, la gauche bobo des Verts, moi, j'ai honnêtement, c'est vrai, hein, y a sûrement une partie... Urmic lui-même, c'est la bourgeoisie bordelaise, mais quand même, le programme était très social. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles moi je suis d'accord dans le programme. Donc, il y a d'une part, je crois qu'il faut pas sous-estimer le besoin de verre des Français, surtout après le Covid. Vous savez, on a vu quand même que c'était vachement bien pour la nature et les animaux. Je pense que les Français, ils sont, de ce point de vue-là, il ne faut pas sous-estimer leur attachement à une politique qui ne soit pas destructrice de la planète. Mmh. Or, aujourd'hui, c'est aussi l'échec du capitalisme. C'est pour ça que je trouve que cette élection, elle est très intéressante. Hein. Alors, ça va compliquer beaucoup de choses pour les présidentielles, probablement. Mais c'est d'abord le dégagisme de la Macronie. Édouard Philippe, je ne pense pas que Macron... Enfin, je pense surtout qu'Édouard Philippe, il va plonger sur l'idée pour essayer de devenir candidat de 2022, hein,
peut se passer beaucoup de choses d'ici là, peut-être juste un mot, parce que beaucoup de gens déconnectent Frédéric Dabi les municipales d'un scrutin national. Est-ce que c'est un signe de quelque chose ou pas ?
Ils ont plutôt raison. C'est vrai que la présidentielle est un scrutin à part, mais elle s'inscrit dans un cycle électoral.
Merci, Olivier.
La défaite de Nicolas Sarkozy, ça faisait suite à toute une série de défaites pour la droite, à toutes les élections intermédiaires. Là, on est quand même sur des scrutins différents. Je rappellerai, Valérie, notre enquête présidentielle de la semaine dernière, IFOP fiduciale pour Sud Radio et CNews, où Yannick Jadot n'est qu'à 8%, où la gauche est complètement éclatée, et on retrouve en tête les deux partis, les deux forces qui structurent le champ politique national, le Rassemblement national avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui a un socle tout à fait pertinent. Maintenant, c'est vrai, enjamber les municipales, François Hollande avait dit aussi qu'il enjamberait les municipales en 2014, on sait comment ça s'est fini pour lui, donc c'est une élection qui compte, malgré tout.
Oui. Christian de Villeneuve, vous voulez intervenir ? Sur le fait que ce soit un signe ou non, ce vote vert, ce qu'évoquait Olivier de Bordeaux.
Qu'il y ait une poussée des thèmes écologistes, c'est évident et c'est pas très nouveau. Non, moi j'ai le sentiment que l'échec de la République en marche. C'est produit parce que je pense que l'électorat de gauche qui avait voté Macron est repassé à gauche. Et donc aujourd'hui, le président est franchement ancré à droite, et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas se séparer, à mon sens, il ne peut pas se séparer d'Edouard Philippe. Il peut pas se séparer, voir son électorat de gauche partir et en même temps son électorat de droite.
Oui.
Et en plus virer Édouard Philippe ferait d'Édouard Philippe un candidat potentiel pour 2022 extrêmement dangereux.
Oui.
Moi, il était très éclairant le témoignage d'Olivier à Bordeaux, ouais. Et j'avais pas vu les choses comme ça sur effectivement sur ce qui s'est passé pendant le confinement avec le retour des oiseaux. D'ailleurs à Paris, je me rappelle très bien que le premier jour de confinement, j'ai senti d'ailleurs les maraîchers parisiens avec cette odeur un peu de fumier, et c'était extrêmement agréable pour moi qui viens vraiment de la province du sud. Exactement. Non. Alors la première semaine du confinement, quand j'ouvrais mes fenêtres très tôt le matin vers 7h, j'avais tout effectivement le Roland Deschamps de Paris Est, la grande région Paris Est vers Provins. J'ai trouvé cette odeur extrêmement intéressante. C'était un peu ma Madeleine de Proust, Frédéric Dabi, pour moi. Mais je reviens.
Ou alors,
ma maraîchère de Proust. Mais je veux dire par là, c'est que je continue à penser, moi, que cette élection, et on en a reparlé, dégagisme peut-être, mais surtout qu'il y a une énorme fracture entre la France périphérique et la France des métropoles, des grandes villes, Montpellier, Toulouse, Lille, on en a parlé. Et je crois très sincèrement qu'il faut faire ce constat-là. Et je l'ai dit en début d'émission, ce dégagisme est en train de saisir les municipales, ceux qui n'avaient jamais était le cas. Et je continue à penser que le Covid a joué une part très mineure dans le nombre de déplacements, parce qu'à Paris, on a vu quand même qu'il y avait, les bars étaient pleins, dans mon quartier, les bars étaient pleins, le resto aussi. Et il faut quand même, à un moment donné, tirer les leçons, mais il va falloir que tous ces gens-là, tirent vraiment, vraiment les leçons de ce qui est en train de se passer en France. Je sais pas, c'est une insurrection silencieuse.
C'est vrai que l'inquiétude sanitaire avait pas mal reculé dans beaucoup de villes. Elle était quand même là. Hein. Il y a des, exemples. Au deuxième tour aussi, hein, c'est nos enquêtes hebdomadaires. Il y a aussi l'inquiétude économique. Tout simplement, les Français n'avaient pas la tête à ça. Et c'est vrai que malgré une campagne extrêmement longue, par définition la plus longue de la 5e République, il n'y a pas eu de montée en puissance, il n'y a pas eu de crescendo, malgré des affiches extrêmement intéressantes, il n'y a pas eu de dramatisation qui traditionnellement drainait la participation. C'est aussi, hein, plus largement, et là je vous rejoins au-delà du Covid, le fait qu'il y a un cycle abstentionniste en France qui a aussi contaminé les municipales. On est passé entre 2001 et 2014 à plus 10 d'abstention.
C'est Christian de Villeneuve tout à l'heure.
Et on risque de le revoir l'année prochaine avec
les régionales.
Les régionales, si elles ont lieu. Et les départementales.
Une remarque sur Facebook, la conclusion de ces élections sera l'élargissement de la fracture entre l'électorat bobo écolo des grandes métropoles et celui populaire de la France périphérique.
Mais je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup d'électorats populaires dans les grandes métropoles. Il y a une vision des métropoles
Olivier
qui est...
Olivier a dit qu'il avait voté Poutou.
Oui, voilà, mais qui est complètement caricatural. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi des différences de pouvoir d'achat. Mais l'idée que souvent on avance sur lequel dans les métropoles, tout le monde serait riche, bien portant et mondialisé est complètement fausse.
Oui, mais les gens, Frédéric David,
Pardon de le dire.
Oui, mais vous avez raison et je vous réponds par rapport à ça. On a sur ces électorats bobo, ce que j'appelle bobo mondialisé, que vous récusez en partie. Oui, parce que ce sont des gens qui ont fort pouvoir d'achat, ce sont des gens qui peuvent voyager à l'étranger, ce sont des gens qui ont point d'objectif l'écologie, les poubelles jaunes, la révolution des paupières.
Ils ont aussi le pouvoir d'achat aussi.
Oui, mais cette France périphérique s'est paupérisée avec le temps depuis 2 ans, 3 ans, 10 ans et qui a émergé avec la révolte des gilets jaunes et autres. Aujourd'hui, ces gens, on le disait, leur problème, c'est la fin du mois. Donc vous comprenez bien qu'entre le dégagisme politique et la non-réponse à leurs questions, à leurs revendications, à un moment donné, c'est un clivage très fort qui ne sort pas forcément.
Mais d'ailleurs, la promesse écologiste, c'est pour ça que je disais que c'est la pastèque, c'est vert en apparence, mais c'est très rouge à l'intérieur. Elle va très vite se confronter à la réalité sociale. Il faut quand même se rappeler d'où est parti le mouvement des Gilets jaunes. Ouais. C'était sur la taxe carbone. Et donc, certainement que dans ces grandes villes, ils vont vouloir rajouter des impôts locaux pour faire plus d'écologie. Est-ce que ça va être accepté par les citoyens? C'est pour ça que je pense qu'il y a un effet de décalage très important entre les unes des journaux et les médias hier soir. Qui se focalisait beaucoup sur les écologistes, et la réalité du pays qui est beaucoup plus complexe, où à mon avis c'est plus la droite et les socialistes qui ont eu beaucoup d'élus, et il y a ce côté puis, la forêt, l'arbre qui cache la forêt, mais derrière l'arbre il y a une grande forêt, et je pense que on va la voir beaucoup en 2022.
Et il va falloir se poser la question aussi d'Emmanuel Macron et des Verts, comment est-ce qu'il va composer avec cet électorat-là.
Il reçoit les citoyens. Absolument. Pour la conférence écologique, il va essayer de récupérer déjà le vote écologiste. Ça va commencer.
On y revient dans un instant. 0826 300 300, appelez-nous. Est-ce que votre ville a changé de maire? Si vous n'êtes pas allé voter, pourquoi ne l'avez-vous pas fait? On vous attend sur Sud Radio. À tout de suite.
Édition spéciale Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, 0826 300 300, êtes-vous allé voter hier? Êtes-vous satisfait du résultat dans votre ville? Il n'y avait que 5000 villes qui étaient concernées, mais des grandes villes, vous l'avez dit tout à l'heure, Frédéric Dabi, Marseille, on attend toujours le résultat qui est vraiment sur le fil du rasoir.
Le résultat est tombé, mais on attendra le vote au conseil municipal en fin de semaine.
Parlons de... des différents partis, le Rassemblement national qui donc a réussi à remporter une ville importante comme Perpignan, mais qui n'a peut-être pas obtenu tout ce qu'il espérait.
Clairement, c'est un mauvais cru pour le Rassemblement national. Au premier tour, on a eu les maires sortants qui ont la plupart été réélus. On sait très bien qu'il y a une primo sortant très fort, une élection municipale. Ils ont perdu le 7e secteur de Marseille, qui est comme une très grosse ville avec Stéphane Ravier. Surtout, on a eu un Rassemblement national qui a moins réussi à proposer des listes qu'en 2014. Et au final, ils auront deux fois moins d'élus municipaux qu'en 2014. Ce n'est pas un bon cru, comme c'est un très mauvais cru pour la France insoumise et la République en marche.
Oui, Christian Villeneuve, peut-être, sur les résultats, parce qu'on voit, et encore, ça rejoint, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le RN qui est très fort quand vous faites un sondage sur national, la présidentielle, sur un sondage national, et en local.
Comme à l'ERM, d'ailleurs.
Comme, oui.
Même si le Christian RN Villeneuve.
Je pense qu'il y a une grosse différence entre le vote municipal et le vote national. Et Frédéric David l'a très bien souligné tout à l'heure. Non, je pense que moi, ce qui m'a frappé hier soir, c'est la quasi-absence de la France insoumise, qui essayait de se rattraper en disant qu'elle participait à des listes d'Union de la gauche, mais c'était spectaculaire. Spectaculaire, et c'est, moi je pense que c'est aussi une des grandes perdantes de cette élection.
Oui. Allez-y, non, allez-y.
Bon, mais je voudrais souligner c'est l'ampleur de la déroute de la République en marche. Pas une conquête et des défaites spectaculaires. Et effectivement, la tragédie la plus spectaculaire étant celle de Paris. Voilà.
Oui, non, mais ça c'était attendu, prévisible, mais. Effectivement, pour le moins, à part Édouard Philippe, mais est-ce qu'on le considère comme La République en marche?
Il n'est pas adhérent en marche, mais il était majorité présidentielle, on ne peut pas lui enlever ça.
On ne peut pas lui retirer ça, donc il y a une déroute tout de même. L'ère France Insoumise, pareil,
mais déjà, on le savait, ils avaient essayé de prendre beaucoup de villes au Parti communiste, il y avait eu quelques enquêtes qui avaient été faites, on voyait très bien que c'était une véritable catastrophe. Ils ont présenté peu de listes, et par exemple, la France Insoumise s'était opposée au printemps marseillais, au nom du refus de s'allier avec les socialistes. Donc c'est quand même complètement perdant cette élection.
Mais c'est là que Jean-Luc Mélenchon, et à mon avis c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'avait pas la tête des bons jours hier soir, il mettait en avant la grève citoyenne.
La grève civique,
la catastrophe.
Qui est pas un terme ridicule,
Absolument, il avait tout à fait raison. Mais l'autre raison pour laquelle, à mon avis, il n'avait pas la tête des beaux jours, c'est que justement, il voit que les écologistes ont le vent en poupe et qu'ils risquent peut-être d'arriver à constituer une nouvelle gauche plurielle sans les insoumis et de passer très sérieusement devant eux. Là, maintenant, Jean-Luc Mélenchon, il a un vrai rival à gauche en la personne de Yannick Jadot et il le voit venir et ça se confirme.
Oui,
et je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à résister à cette vague verte. Moi, je voulais dire pour le Rassemblement National, c'était aussi la ville de Mantes-la-Ville
qui a été perdue
par le Rassemblement National. C'est une ville très importante dans les Yvelines et le maire sortant au Rassemblement National a été battu.
Comment vous l'expliquez ça?
Alors, Mantes-la-Ville, c'était une triangulaire, si je ne me trompe pas, voire une quadrangulaire.
Mais qui n'est pas eu une poussée du RN au niveau.
Il a été très touché par l'abstention. Quand on voit la structure de l'abstention et la structure du vote RN, ça se recoupe pas mal. Un vote jeune, un vote issu des catégories populaires. Très clairement, il y a une difficulté pour le RN à présenter des listes. Il y a toute une série de villes où ils ne se sont pas présentés. Ils ont du mal à trouver. Et là, c'est vrai que ça limite la stratégie de Marine Le Pen sur l'installation, l'institutionnalisation du Rassemblement national. Et puis, c'est vrai qu'en dehors de Perpignan, le Front républicain n'a pas joué. À Carpentras, par exemple, le RN n'a pas pu prendre la ville. C'est pas un bon cru. Ça sera nettement mieux pour eux. Pour des élections où l'étiquette partisane compte, les européennes l'année dernière et les régionales si elles ont lieu en mars prochain.
La République en marche a combien de villes au final?
Mais quasiment aucune. Je crois qu'il y a peut-être Périgueux qui est tombé, mais je me trompe peut-être. C'est peut-être le PS qui l'a pris. Non, ils ont quasiment aucune ville, sauf peut-être quelques. Alors François Bayrou l'a emporté aussi. Oui. Il est modem, il est majorité présidentielle, mais vraiment ça se compte sur des doigts d'une main.
Oui, et puis c'est un baron, François Bayrou, dans son territoire. Mais pour revenir sur la LFI, effectivement, c'est une lente d'échéance aussi, la LFI, au point de vue national et l'ancrage territorial. Et pour le RN, effectivement, c'est une vraie question qui va se poser pour les prochains mois sur l'enracinement, parce qu'on pouvait penser que le Rassemblement national allait s'ancrer dans les villes. On a vu notamment notamment, vous l'avez dit, hein, sur des villes comme Carpentras et tout. Et je pense qu'il y a un vrai défi pour le Front National, mais à mon avis, c'est une lame de fond idéologique sur le Front National, avec des reculs très importants sur les politiques nationales et les politiques européennes. Le débat dans ce second tour, je continue à le dire, a très fortement impacté Marine Le Pen et sa crédibilité. Et je crois que les gens aujourd'hui, le Front National, il y a quand même des fractures qui se font et un renouveau idéologique qui va devoir être mis en place, notamment sur les questions, à mon sens, d'Union européenne qui seront centrales dans les prochains mois.
On a en ligne Marie qui nous appelle de Paris. Bonjour Marie.
Bonjour Valérie, bonjour, bonjour à tous vos invités.
Bonjour.
Alors, vous êtes allée voter hier?
Alors, je suis allée voter, j'ai voté blanc parce que je votais à Paris et qu'à Paris, franchement, très déçue par Anne Hidalgo. Beaucoup d'idées, je suivais beaucoup de ses idées, mais franchement, Paris, c'est une catastrophe. Alors, il n'y a pas que les voies à vélo. Hein. À Paris, il y a la propreté, à Paris, il y a la délinquance, à Paris, il y a beaucoup de problèmes. Là, par exemple, voilà, elle a donné autorisation aux terrasses de café, mais c'est l'anarchie totale. Conclusion, quand vous êtes artisan comme mon mari, à 22h, vous êtes là à tourner en rond pour chercher une place pour vous garer. Donc, cette dame, elle prend des décisions, mais comme ça, et voilà. Enfin, bref, il y aurait beaucoup à dire. Quant à Rachida Dati, j'avais pas envie de lui faire confiance, parce que quand elle était ministre, elle m'a beaucoup déçue. Donc, c'est une bonne mère pour le 7e, j'en doute pas, mais pour Paris, voilà. Quant à Madame Buzyn, voilà, quoi. On n'a pas envie du tout de lui donner le portefeuille de Paris. Donc, je suis quelqu'un de très déçu. Je vois que ma ville, que j'adore, elle va pas s'arranger, parce que les décisions, je suis dans le 18e, et on a énormément de problèmes dans le 18e, d'immigration, d'insalubrité, de parking, enfin de tout. Là, par exemple, Port de Clignancourt, allez-y, prenez à Clignancourt, vous pouvez plus passer boulevard Ornano, voilà. On est artisans et on a beaucoup de difficultés, voilà.
Ouais. Mais c'est oui, pour ceux qui habitent Paris, je pense qu'ils comprennent ce que vous êtes en train d'expliquer.
Même si
mais
c'est
en
pas
tout
représentatif, puisque l'élection a quand même donné une très nette majorité à Anne Hidalgo, y compris dans le 18e où...
Paris, comme d'habitude, est coupé en deux.
C'est vrai, mais tout le 18e fait partie des arrondissements de gauche. Enfin, mais c'est vrai qu'il y a une abstention très forte.
Oui. Ouais, mais la personne qui a une très très grande responsabilité, c'est Agnès Buzyn. Parce que comme elle est arrivée troisième au premier tour de municipal, elle aurait dû se retirer pour pouvoir permettre, au moins donner une chance et une alternance politique à Paris.
Il y a beaucoup d'électeurs Buzyn qui seraient chez Hidalgo.
Chez Hidalgo et d'autres chez Rachida Dati aussi, qui a fait plutôt un bon score, je trouve, au deuxième tour. Et c'est vrai qu'il y a aussi une grande responsabilité d'Agnès Buzyn, je tiens à le souligner.
Allez, on marque une pause et appelez-nous 0826-300-300 pour nous dire ce que vous pensez de ces résultats. 0826-300-300, on est avec vous jusqu'à midi sur Sud Radio.
Édition spéciale Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Édition spéciale avec vous, auditeurs de Sud Radio, 0826-300-300 avec Christian de Villeneuve, éditorialiste politique, Michel Taub, fondateur du site d'information Opinion Internationale, Nicolas Vidal, directeur de la publication de Putsch, le média franc-tireur, et Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. On a Josette en ligne avec nous. Bonjour Josette.
Bonjour à tous. Merci de prendre mon appel une nouvelle fois. Et alors moi, je voulais intervenir par rapport à l'abstention et reprendre un peu des choses qui ont été dites déjà tout à l'heure. Je suis absolument, absolument depuis très longtemps très favorable au vote obligatoire qui, par exemple, se passe en Belgique et ne pose aucun problème. Et comme quelqu'un a dit, si on n'est pas satisfait du choix proposé, il y a le vote blanc. Et ce qui est important, c'est d'abord parce que ça remotiverait l'esprit civique et surtout les résultats, ce serait une photographie plus juste.
Vous êtes allé voter, vous, hier? Vous aviez...
J'avais déjà mon maire dans mon petit village qui avait été largement ma mère, qui avait déjà été élue au premier tour. Et je voudrais profiter aussi, puisqu'on parle de mode de scrutin, quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps par rapport au suffrage universel où on ne retient que deux candidats, alors que des fois il y a c'est 0,0 quelque chose. Et on dit que les gens votent plutôt contre que plutôt pour. Or, si on pouvait permettre à des triangulaires et des quadritulaires, là, comme on dit, je pense que le résultat pour la présidence, on aurait plus la possibilité de voter pour que voter contre. Voilà, j'ai eu la possibilité de dire ce que je voulais dire, je suis très contente.
Oui, alors, merci. Oui.
Moi, j'aimerais dire quelque chose sur le vote obligatoire. En termes de citoyenneté, je suis favorable, effectivement. Après, je presque une question à poser à Frédéric Dabi. Si tous les Français, enfin en âge de voter, devaient voter, quelle en serait la conséquence? Est-ce que ce ne serait pas plutôt les extrêmes qui gagneraient des voix, dans le sens où beaucoup de ceux qui ne vont pas voter, qui ne vont jamais voter, ne se reconnaissant pas dans les grands partis traditionnels, et on le voit bien entre ceux qui ont une audience nationale, LERM, le Rassemblement National, qu'on ne retrouve pas au niveau de la proximité des intérêts de nos concitoyens, ça risquerait d'être assez désastreux, je crains.
Mais je suis pas tout à fait sûr. Quand on fait une enquête d'opinion, par exemple, sur la présidentielle, on a très peu d'abstention déclarée. Bien sûr, ce n'est pas la réalité. Et pour autant, on a des résultats qui sont toujours assez proches du résultat réel. Il y a eu aussi quand même, par le passé, des élections où il y a eu une participation massive. Hein. La présidentielle de 2007 ou de 2012, on a dépassé 82%. Voilà, donc je pense que c'est difficile de pouvoir dire ce qui se passerait. Mais c'est vrai qu'il y a un électorat. Mais est-ce que si on l'obligeait, il voterait quand même? Parce que c'est aussi une vraie question. Il y a une logique de vanité du vote. À quoi sert de voter? Voter est vain. Et il y a une désaffiliation qui touche quand même une partie importante de l'électorat, au-delà de la conjoncture liée au Covid à cette élection.
Après, je prendrais le système à l'envers aussi. Il y a un problème d'offre politique. Bien entendu, des classes politiques, des partis qui sont représentés, on va dire proportionnels aussi pour les députés. Donc il y a toute cette offre politique. Et je peux comprendre tout simplement qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller voter parce qu'ils estiment qu'il y a des gens qui ne les représentent pas, qui ne portent pas la voix. Quand vous avez vu certaines alliances entre les deux tours, des alliances complètement iconoclastes, même contre nature, comment voulez-vous que, même moi, je ne vais pas en tant que citoyen et pas en tant qu'éditorialiste, il y a des fois, je me dis, ils me prennent pour un imbécile, là. Ils nous prennent pour des imbéciles. Donc je crois qu'à un moment donné aussi, l'offre politique, la classe politique, j'en parlais tout à l'heure, des défiances, ça va poser un gros problème. Et on verra comment ça va s'appeler la présidentielle 2022, parce qu'avec ce coup de tonnerre hier, une nouvelle fois, qui est quand même très important, on verra bien qu'en 2022, si les cartes ne seront pas rebattues et si les chiffres et les sondages vont complètement sombrer dans l'abstention absolue. Et je le souhaite pas, bien entendu. Voilà. Mais que l'offre politique soit beaucoup plus large.
Un auditeur nous dit qu'en Belgique, ils ne sont pas si contents que ça du vote obligatoire.
Oui, l'offre politique à une présidentielle est quand même large. Au municipal, il y a eu des villes où il y avait énormément de listes. C'est pas seulement une question d'offre, c'est une question d'inadéquation, c'est une question aussi d'acte de vote qui n'apparaît plus comme le symbole de l'acte démocratique.
Oui, la gauche unie, seule possibilité face à Macron, elle existe, la gauche?
Oui, alors la gauche unie a clairement un espace, on l'a vu aux élections municipales, où clairement il y a une sorte de revival de la gauche plurielle, plutôt menée par les écologistes, mais n'oublions pas que dans les villes où le PS était sortant, il l'a quasi systématiquement emporté devant les écologistes au premier tour, sauf Poitiers qui est passé chez les écolos. Mais du côté de la gauche, il y a un espace politique, c'est sûr, mais il y a un déficit d'incarnation. À droite, il n'y a plus beaucoup d'espace, surtout c'est Édouard-Philippe Rest, mais il y a une incarnation. Est-ce que c'est Xavier Bertrand? Est-ce que c'est Valérie Pécresse? Est-ce que c'est François Baroin? C'est là le paradoxe du champ politique.
Avec des propositions. Les propositions, parce que moi aujourd'hui, vous savez, je suis un féru des questions de l'Union européenne. Aujourd'hui, aussi bien à droite que chez la REM, il y a vraiment des questions de l'Union européenne. Il n'y a pas l'espace d'un papier à cigarette entre les deux propositions sur la réforme des retraites, sur une série de choses aujourd'hui qui sont centrales pour les Français, dont les Français n'ont aucun espoir politique et de voix politique. Ils leur proposent autre chose, si ce n'est effectivement tout ce qui est Asselineau, ce qui est Philippot, mais qui aujourd'hui ne pèse pas dans le débat. On est d'accord. Asselineau, je crois que c'est 0,3. Je crois que c'est là. Bon, on verra d'ailleurs ce que va donner le camp des souverainistes. Je crois qu'il y a des grands rassemblements souverainistes qui sont en train de se mettre en ordre de bataille. Mais une nouvelle fois, entre
Michel Onfray, c'est le
oui,
nouveau,
voilà, mais c'est oui, le nouveau
champion. Mais comme j'ai écrit quelque part, le souverainisme, c'est l'ennemi de la souveraineté. Parce que la réalité, mais c'est ça le vrai débat, je suis d'accord. C'est pas le débat des municipales, mais c'est le débat des deux années à venir.
Et la question est de savoir comment Emmanuel Macron va réagir face à ces multiples maires écologistes. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il va recevoir la conférence citoyenne.
N'en déplaise à notre ami Vial, il va à
Vidal.
Allez-y, vous vous
Il va voir Angela Merkel ce soir.
Ah bien entendu, mais comme d'habitude.
La présidence de l'Union européenne, et parce qu'effectivement, la France et l'Allemagne restent
le principal de l'Union européenne. Je finis là-dessus, Valérie.
Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose.
Sur la convention citoyenne, est-ce qu'on va peut-être avoir l'idée peut-être de se négocier le CETA ou d'abroger le CETA, du moins la ratification de la France par rapport à l'Union européenne sur le traité de libre-échange avec le Canada? Parce que ça aussi, en termes d'écologie, ça, si c'est pas anti-écologique, parce que je rappelle qu'on a aujourd'hui près de 41 traités signés avec 75 pays au sein de l'Union européenne. Donc en termes d'écologie, je pense qu'il y a des gens qui devraient, et je finis là-dessus, le 23 juillet 2019, quand le CETA a été ratifié devant l'Assemblée nationale, on était 60, j'étais en tant que journaliste, il y avait 30 agriculteurs, il n'y avait absolument personne de l'Assemblée nationale pour demander des comptes aux députés qui allaient voter pour la ratification. C'était le volet arbitrage du CETA. Et ça, c'est un acte anti-écologique au possible.
Non, voilà. Christian, écologique.
Je voulais voir Christian Villeneuve. Comment est-ce qu'Emmanuel Macron peut réagir, composer avec cette, on va mettre des guillemets, à vague écologiste? Il est obligé d'en tenir compte.
Il ne peut pas ne pas en tenir compte, et quand même, il est à l'origine de cette convention. Donc, tout son problème, c'est d'essayer, à mon avis, de retenir les résolutions raisonnables, disons. Enfin, bon. Et il va être obligé, effectivement, sans doute, de verdir son programme. Et tout le problème, c'est de savoir si, concrètement, dans le prochain gouvernement, il va faire appel à des écologistes reconnus. Voilà. Après, et tout son problème, il est également... S'il maintient Édouard Philippe, qui on sait a une sensibilité écologique tout à fait relative. Donc c'est parce qu'il est dans une contradiction. Il est dans une contradiction. D'une part, il doit quand même tenir compte de ses initiatives et du vote vert. Et d'autre part, je pense qu'il ne peut pas se priver d'Édouard Macron, qui lui a une sensibilité écologique beaucoup plus réservée.
Édouard Macron, vous avez dit.
Mais peut-être que vous venez de dire la vérité du couple de l'exécutif.
Mais ça risque d'être compliqué tout de même, même si le président de la République a dit qu'il voulait donner plus de place aux régions, plus d'autonomie. Ce matin, le nouveau maire de Bordeaux disait sur une radio concurrente, je veux poser la question de la 5G, je trouve inadmissible qu'on puisse l'imposer sans en discuter aux habitants. La voiture, la majorité de l'espace public sera dédiée aux piétons et aux cyclistes. Il y a un moment où ça risque d'être compliqué. C'est-à-dire que si on s'oppose à la 5G, qui est une décision, c'est un exemple parmi d'autres, mais la 5G est un point de...
Mais alors, c'est ça qui est assez intéressant, oui, sur le papier, mais il ne faut pas oublier que les alliances LREM, LR, dans toute une série de villes où les écologistes étaient plutôt bien placés, c'était justement pour dénoncer un manque de réalisme économique, le côté chaos que pourraient amener les écologistes. À l'exception de Toulouse et Lille, ça s'est joué à très peu de choses en faveur de Marcel Aubry, ces appels n'ont pas été relayés et n'ont pas été, si je puis dire, repris par la population dans leur vote. Mais c'est vrai qu'il va y avoir pour les écologistes au pouvoir, avec des personnes très peu connues qui connaissent Grégory Doucet ou Jeanne Barseguian à Lyon et Strasbourg, là, une certaine confrontation avec le réel, la question de l'immobilier, la question
l'insécurité.
D'insécurité, même si.
De communautarisme.
Oui, bien sûr, Grenoble. C'était la ville laboratoire. Éric Piolle, quoi qu'on en dise, a été réélu assez nettement.
Absolument. Oui.
Donc
oui,
il y a eu quand même une réussite des écologistes sur la gestion.
Sur la gestion. Vous vouliez parler du Parti communiste aussi.
Oui, le Parti communiste français, ça n'a pas été un cru formidable. Ils ont certes gagné quelques villes. Ils ont récupéré Bobigny, Noisy-le-Sec, une troisième qui m'échappe, mais ils ont perdu des villes. Leur plus grosse ville, Saint-Denis, qui est passée aux mains du Parti socialiste. J'avais parlé dans un coup de cœur dans une de vos émissions, le fait que le maire communiste avait refusé l'alliance avec une liste d'hiver gauche où il y avait des indigénistes dont M. Messaouden. Ils ont perdu également Valenton, Champigny, la ville de Georges Marchais. Valenton était au PC depuis 100 ans. Arles, qu'a gagné Patrick de Carolis. Une fois de plus, élection après élection, le tissu d'élus communistes, je ne dirais pas qu'il se réduit comme une poche à grains, il reste important. Il y a plus d'élus communistes que d'élus en marche. Hein. On est bien d'accord, mais il se réduit.
Oui. Les communistes, la fin, le début de la fin.
Oh, ça fait longtemps que c'est le début de la fin. Je pense que le début de la fin, ça remonte à la chute du mur de Berlin. Mais c'est vrai qu'ils résistent, et ça montre bien d'ailleurs aussi la capacité qu'a et que va avoir le Parti socialiste comme LR. Parce que tout ça, ce sont des partis quand même historiques, qui ont une longue histoire. Et donc c'est très très difficile. Et ça montre la difficulté pour des nouveaux mouvements comme les écologistes et encore plus le Rassemblement National. Ces grands partis traditionnels ont des assises qui remontent pour certains à plus d'un siècle. Cette année, on va fêter entre guillemets les 100 ans du Parti Socialiste avec le congrès de Tours en 1920. Donc tout ça, c'est de très très longues histoires. Et il est difficile d'effacer cette longue histoire politique et politiciennes.
Oui, mais ça leur coûte cher par leur immobilisme, voyez-vous. C'est-à-dire que le pays est dans une situation aujourd'hui compliquée. Nous savons tous que les gens aujourd'hui, une partie des gens, ne faisons pas de généralité, sont très très durs contre les partis traditionnels. D'ailleurs, on se rend compte que l'abstention, je vais en reparler, est un marqueur fort. Voilà, et c'est pour ça qu'on verra en 2022, les cartes risquent d'être sacrément redistribuées. Voilà.
Oui, Christian Villeneuve, sur le Parti communiste.
Non, mais enfin, je sais pas, il représente encore quelque chose dans la banlieue, dans les banlieues parisiennes et un peu dans le sud. Mais c'est vrai qu'il a perdu aussi une ville très emblématique comme Aubervilliers. Voilà. Donc non, le problème c'est qu'on ressort en ce moment le concept de gauche plurielle. Et moi, je voudrais savoir que si les écolos s'inscrivent dans la gauche plurielle, si LFI va s'inscrire dans ce concept, le PS bien sûr, et que faire du PC.
Oui.
C'est tout le problème que va avoir Yannick Jadot. C'est tout le problème que va Yannick Jadot, qui est un petit peu plus libéral, on va dire, que ses colissiers et ses amis. Mais c'est vrai que le fond, la base d'Europe Écologie Les Verts est quand même très très à gauche et ne conçoit pas d'alliance avec des élus de droite, quand bien même mènerait-il des politiques écologistes très très fortes. Et c'est pour ça que ça va être très très dur pour Yannick Jadot qui est beaucoup plus centriste que les autres.
Bien sûr, et très très, très très clairement, les victoires des écologistes dans la plupart des villes ont été des victoires collectives. Le printemps marseillais, n'oublions pas que Michel Rubirola avait été exclu de ELV, c'est une victoire. Europe Écologie, bien sûr, mais également PS, PC. Toute une série de villes, alors je mets de côté Strasbourg qui a été gagné face au PS ou Poitiers où le maire PS était sortant. C'est pas une résurrection de la gauche plurielle, mais c'est quand même un attelage de gauche et qui, pour l'instant, n'a pas de traduction nationale faute d'incarnation, pour l'instant. Ouais, bien sûr, pour l'instant, il peut y avoir des personnalités qui pourraient émerger, et pas seulement Yannick Jadot, qui, il faut le dire, pâtit d'un déficit de notoriété extrêmement fort. Il n'a pas percé dans l'opinion publique, malgré son succès aux élections européennes.
Le 9-3, donc la Seine-Saint-Denis qui passe à droite.
Oui, plutôt la ville. La ville de Saint-Denis, c'est une ville que le PC gérait depuis une... presque 80 ans.
Qui passe au socialiste.
Non, qui passe au PS, excusez-moi.
Qui passe au PS.
Je ne sais pas si j'ai dit droit. Non, c'est Mathieu Hanotin qui avait échoué en 2014 d'environ 300 voix, qui l'a emporté du fait de la division de la gauche pour les raisons dont on a parlé.
Absolument. On va marquer une pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous, 0826-300-300. Si vous voulez réagir, évidemment, vous pouvez nous appeler. On est à l'antenne sur Sud Radio avec vous jusqu'à midi.
Édition spéciale Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi. Vous retrouverez André Bercoff, le retour d'André Bercoff. Je suis avec Christian de Villeneuve, Michel Taube, Nicolas Vidal, Frédéric Dabi et nous avons Patrick Mignon en ligne avec nous qui participe régulièrement à l'émission, qui nous écoute et qui voulait réagir. Bonjour.
Bonjour Valérie, bonjour à tous. Alors, oui, je savais que vous auriez une très bonne émission ce matin, différente de la langue de bois qu'on entend ailleurs. C'est pour ça que je vous ai écouté. Je voulais revenir sur le manque d'appétit et donc le fort taux d'abstention. Vous avez évoqué tout à l'heure tous le vote blanc. C'est très bien, mais quand les gens votent blanc, c'est suivi d'aucun effet. Ce qui fait que moi, à titre personnel, là je ne parle pas au nom du Parti chrétien-démocrate, à titre personnel, je me pose la question de savoir si il ne faudrait pas que lorsque ce vote blanc atteint ou dépasse 50%, eh bien, l'élection soit de nouveau tenue avec un changement du panel des candidats. Parce que ça veut dire que 50% de gens ne se reconnaissent pas dans l'offre politique et donc, manifestement, ça sera une élection par défaut. Peut-être qu'au début, ça aura des conséquences importantes et que ça générera des surcoûts parce qu'il faudra retenir un tour ou un deuxième tour de telle ou telle élection. Mais à la longue, ça permettrait, je pense, aux citoyens de se retrouver dans l'élection que systématiquement les gens boutent de plus en plus, ce qui est évidemment très mauvais pour la démocratie.
Mais ce qui est vrai dans ce que dit M. Mignon, c'est que le parti majoritaire en France aujourd'hui, c'est les abstentionnistes, ce seraient les votes blancs, et que c'est pour ça qu'ils ne le rendront jamais ni obligatoire pour l'un, ni totalement pris en compte, c'est que ce serait la claque des claques pour tout le personnel politique, et qu'on ne peut pas, j'ai envie de dire, se le permettre pour des raisons évidentes de sérieux institutionnel de notre République, qui est déjà suffisamment fragilisé sur le terrain
mais
social.
Pourtant, Michel, vous savez très bien que tous les soirs, encore hier soir, on nous a dit, on a entendu le message, on a entendu le message, on a entendu le message, on répète ça en permanence et moi je rigole, je rigole vert et jaune même dessus parce que ça fait pas longtemps, je suis pas très très vieux, mais j'entends ça depuis très longtemps, très longtemps, très longtemps. Donc même moi, je m'affronte une espèce de déni de démocratie permanent et ça commence, je comprends que les Français et les Françaises commencent à en avoir plus que marre.
Oui, il y a quand même des élections. C'est vrai, hein, je comprends ce qui a été dit. Quand on regarde les législatives, les européennes et les municipales, première partie de France, l'abstention. Ça n'avait jamais été le cas pour les élections municipales. Je persiste à dire qu'au-delà de la défiance, il y a quand même un contexte extrêmement, extrêmement particulier. Il ne faut pas quand même
avant vous alliez, c'est ce que je disais. Je pense quand même que le coronavirus, moi je maintiens qu'il a été déterminant.
Le spectre était toujours là.
Il y a au moins 10 points de
maintenant, c'est vrai qu'à l'élection présidentielle, les Français votent massivement, même si à cette élection aussi, on est passé en une trentaine d'années de 12% d'abstention à plus de 23-24 en 2017. Pourtant, enfin, il y a quand même un choix, il y a quand même une question d'appétence et d'intérêt politique, parce qu'il y a quand même un choix, une palette de candidats à la présidentielle, au municipal, extrêmement large. On n'est pas sur cette non-différenciation qu'on avait pu voir par le passé.
Moi, j'aimerais quand même dire, sur votre excellent sondage la semaine dernière, Sud Radio et Frédéric Dabi, où effectivement vous montrez que Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouvent au deuxième tour, il y a justement un élément qui n'est peut-être pas suffisamment pris en compte. C'est que si ce sont ces deux-là qui se retrouvent au deuxième tour en 2022, là, il risque d'y avoir une vague abstentionniste extrêmement forte. Parce que là, je ne pense pas que Mélenchon appellera à voter Le Pen pour battre Emmanuel Macron, mais il appellera certainement les Français à ne pas aller voter. Et beaucoup d'autres feront la même chose. Et donc, du coup, on risquerait de se retrouver avec un chef de l'État si mal élu que véritablement, on serait dans une situation...
Vous imaginez, Michel, la perspective qu'on donne aux Français ? Une nouvelle fois, on va se retrouver avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Non, mais il y a une autre hypothèse que le sondage
n'a pas évoqué,
c'est celle où Macron ne se représenterait pas. Parce que je pense quand même qu'au rythme où vont les choses, et avec une rentrée sociale qui s'annonce très très chaude, ça va être...
C'est une hypothèse tout à fait intéressante, mais soyons prudents sur l'offre électorale. Soyons prudents sur l'offre électorale. Emmanuel Macron, trois ans avant la présidentielle, était inconnu des Français.
C'est pour ça que faire des prospectives...
C'est un exercice de style, ces enquêtes présidentielles.
Christian.
Oui, moi je crois qu'il faut faire attention. L'élection présidentielle, c'est dans deux ans. Et effectivement, il y a entre autres une crise sociale et économique qui se dessine et qui peut faire changer beaucoup les choses. On a beaucoup, tout ce matin, là, on a beaucoup décrit la défaite de la République en marche et en particulier d'Emmanuel Macron. Mais effectivement, il faut quand même savoir, enfin, il faut quand même constater que dans les différents sondages, que Macron n'est pas mort. C'est-à-dire qu'il a un socle, encore très conséquent, qui oscille, je crois, entre 24 et 28%, donc Frédéric me confirmera. Et d'autre part, on ne lui voit, à part Marine Le Pen, qu'on connaît bien, on ne voit pas de leader se dégager, soit au sein de la droite, soit au sein de la gauche.
Ou de la gauche, oui, absolument. Absolument.
Oui, ce que dit Christian est vrai. Emmanuel Macron est en meilleure situation quantitative maintenant qu'avant la crise du Covid. C'est un président qui aura trois fois rebondi assez nettement. Pour autant, je suis frappé dans les enquêtes qualitatives où on fait parler les gens spontanément à quel point sa parole est démonétisée, à quel point il y a un souci. On ne dit pas que c'est un menteur, comme on le disait pour Nicolas Sarkozy, mais il y a un manque de sincérité et exactement toutes les qualités, tous les défauts que l'on retrouve comme des qualités chez Édouard Philippe, qui bénéficie d'une popularité maintenant en décalque sur celle d'Emmanuel Macron.
Oui, absolument. Donc, et là, remaniement, pas remaniement, dans combien de temps ?
Aucune idée. C'est vrai que c'est... On est entre nous, mais il y a toujours un décalage très fort entre le bouillonnement politico-médiatique et le très fort désintérêt des Français. Les Français ne sont pas sur une logique de casting, mais sur une logique de résultat. Maintenant, voilà, Édouard Philippe, quand même, après cette séquence Covid... Après cette popularité, après cette victoire électorale, et on publie ce matin un sondage avec la Tribune pour savoir en qui fait-on confiance pour réinventer la France, qui est le terme utilisé par le président Macron, Édouard Philippe arrive nettement en tête, devançant de 15 points Emmanuel Macron.
C'est pour ça que dans mon édito ce matin, je défends l'idée qu'Édouard Philippe va succéder à Édouard Philippe. Je me pose quand même la question de savoir si Édouard Philippe n'aurait pas intérêt à prendre un petit peu de recul au chaud au Havre pour se préparer à être une alternative
à
Emmanuel Macron.
Personne ne sait, effectivement.
Si celui-ci n'allait pas jusqu'au bout.
Ouais. Voilà. Christian Villeneuve, vous qui êtes en Normandie, justement, pas très loin du Havre, qu'est-ce que vous en pensez?
Effectivement, Édouard Philippe, d'abord, a fait un score formidable au Havre, parce que, évidemment, au premier tour, il était très serré, et là, il a amplifié considérablement son score au second. S'il a s'il a une ambition présidentielle, il a intérêt aujourd'hui à quitter le gouvernement. Mais il n'est pas sûr qu'il ait cette ambition.
Non, mais personne ne sait effectivement s'il a intérêt ou non à le quitter. S'il a des ambitions, peut-être qu'il a intérêt à quitter ce gouvernement.
Bien sûr. Mais dans ces cas-là, ça gênerait particulièrement la droite qui n'aurait plus de candidat.
Ou alors il se présenterait pour la droite.
Bien sûr.
c'est aussi une hypothèse qui est possible. Hein. On a un auditeur qui nous dit Le Havre, 104 000 inscrits, Édouard Philippe élu avec 25 000.
Je suis assez gêné par les discours qu'on ne tient pas ici sur l'illégitimité des élus. Les personnes n'avaient qu'à voter. Elles ont le droit de ne pas voter, mais on ne va pas culpabiliser les maires qui ont été élus. C'est comme si on disait ici que le quinquennat doit être supprimé parce que le référendum sur le quinquennat en septembre 2000, il y avait eu moins de 30% de participation.
Mais c'est là où je dis aux gens, allez voter, où on ne peut pas hurler.
Exactement, ils ont le droit de ne pas voter, mais il ne faut pas aussi jeter le propre pour ceux qui sont allés voter.
Mais on peut quand même poser la question sur la légitimité, sur les fondements de la démocratie, de manière à ne pas arriver à un crash test, parce que là, aujourd'hui, c'est le remaniement ou pas remaniement en fin de semaine. Je vais vous dire, les Français, c'est en contrebalance. Ouais. Concrètement, et l'électrochoc, ça sera soit une dissolution, soit des référendums sur des questions centrales.
Mais la légitimité se pose quand même, Frédéric Dabi.
Non, la légitimité pour les élus, j'ai envie de dire non, absolument pas. Ils ont été élus. D'ailleurs, moi, je suis frappé par le décalage entre l'abstention très forte, qui est en dissonance avec les précédents scrutins municipaux, et les enseignements du premier tour comme du second tour, qui étaient connus, qui étaient écrits. On savait dans nos enquêtes, et le 15 mars, que La République En Marche connaîtrait un très mauvais cru, qu'il y aurait une poussée écologiste, que les partis de l'ancien monde se portaient bien. Donc, l'abstention compte, c'est un élément, comme vous le dites, qui est un révélateur de notre mauvaise santé démocratique, mais on ne doit pas non plus délégitimer les résultats.
Oui.
Non, mais la légitimité, évidemment, elle est politique, elle est institutionnelle, elle est démocratique. Mais quand même, on n'a jamais eu, et vraiment, même le 68 n'a pas duré aussi longtemps, la légitimité, elle est contestée de plus en plus dans la rue. Enfin, on est dans un épisode là des épisodes d'une colère française qui ne s'arrête pas. Et tout le monde nous prédit une rentrée sociale extrêmement difficile. Et moi, je retiens de ce débat, c'est ce décalage entre, effectivement, le sondage IFOP Sud Radio qui dit les deux principaux candidats nationaux, c'est Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et c'est les deux qui ont eu soit une grosse défaite au municipal, soit quasiment absent des municipales pour Rassemblement National. Ce fossé, ce décalage, il risque un jour de finir par craquer, et il ne va pas craquer sur le terrain politique, parce que là, les choses sont bien bordées par une 5e République quand même extrêmement puissante, mais plus sur le terrain social, et ça commence à coûter très très cher à notre pays.
Ouais. Est-ce que tout le monde va se mettre à l'écologie ? Tout le monde est obligé aujourd'hui de se déclarer écologiste
Oui et non. La préoccupation environnementale reste très forte, mais on voit aussi dans nos enquêtes la montée en puissance des sujets économiques. On est à l'aube, malheureusement, d'une crise, et d'ailleurs ça a commencé avec la litanie des plans sociaux. Je ne pense pas que la préoccupation environnementale s'effondre. Non. On n'est pas sur la période de Sarkozy 2011. L'environnement, ça commence à bien faire. Les Français ne voient plus ces deux enjeux comme des enjeux antagonistes. Mais bien sûr, ils vont être relativement challengés. Maintenant, tout le monde peut se dire écologiste. La question, c'est la crédibilité, c'est les résultats.
Puis, sur Emmanuel Macron, c'est la cohérence.
Et la cohérence dans la politique. Sur Emmanuel Macron, le seul domaine sur lequel il est taxé d'inaction, le seul, ce sont les questions et les enjeux environnementaux.
Environnementaux.
Parce que c'est l'antithèse de sa politique.
Bah écoutez, on va voir effectivement cette rencontre qui a lieu en ce moment même à l'Élysée avec la convention. Donc on en reparlera bien évidemment dans un instant. C'est André Bercoff qui revient en pleine forme. Bonne journée à l'écoute de Sud Radio. On se retrouve demain.
Merci.